CFM, en Tarn-et-Garonne, le MAG.
Madame, monsieur, bonjour. Rémi Thoreau est là avec vous pour la prochaine demi-heure. C'est la 9e édition du festival Passion Baroque et nous allons voir avec son directeur Jean-Marc Andrieux que le baroque n'est pas si éloigné du jazz puisqu'il va être question d'improvisation dans ce festival. Bonjour Jean-Marc Andrieux.
Bonjour Rémi.
Comment ça va ?
Très très bien, très très bien. Vous avez fait une introduction magnifique.
Non mais vraiment, pour moi il n'y avait que dans le jazz, et puis un peu dans le rock aussi, dans les solos de guitare qu'on improvisait, mais j'imaginais pas que dans la musique classique en fait il y avait une place à l'improvisation.
Tout à fait, ça existait déjà, vous savez quand il y a quelque chose, un concept, il y a toujours un petit malin qui l'a fait avant vous, hein, on connaît le truc, et l'improvisation ça date de la Renaissance. Et même, je pense qu'au Moyen-Âge, on improvisait, mais ça, on l'écrivait pas, du coup, ça s'est perdu. Mais cette tradition de prendre une mélodie et de l'orner, quoi, la transformer, ça existait déjà à la fin du XVIe siècle, figurez-vous.
Et donc, il va en être question pendant ce festival. Alors, 9e édition du festival Passion Baroque, un festival qui est né de votre idée à vous, Jean-Marc Andrieux.
Oui, effectivement, on a eu l'idée il y a quelques années déjà, bien de créer ce festival. C'était dans le paysage de notre région, ça manquait un peu, un festival dédié à la musique baroque, aux musiques anciennes, on va dire, dans l'ensemble. Et grâce à la ville de Montauban, qui nous a soutenus dès le départ, on a pu organiser cet événement qui se développe plutôt bien. Et puis qui va se développer aussi au niveau géographique, puisqu'il y a aussi une extension au niveau du département.
Il y a beaucoup, à travers le monde, d'orchestres baroques, comme l'orchestre baroque Les Passions.
Oui, il y en a trop, hélas. Non, je rigole. Oui, il y a pas mal d'orchestres. C'est vrai que nous, j'ai créé l'orchestre en 86, on était un peu pionniers à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'est vrai que la musique baroque a un tel succès qu'il y a énormément maintenant de formations. J'en suis heureux, hein, heureusement. Il y a beaucoup, beaucoup d'orchestres baroques en France. On a une bonne et saine émulation.
Ouais. Qu'est-ce qui fait cet attrait pour la musique baroque ?
Alors, la musique baroque, je pense déjà, c'est qu'il y a cette notion-là de curiosité, et il y a tellement, tellement de partitions qui dorment dans les bibliothèques que quelqu'un qui est un peu curieux, eh bien, il va s'apercevoir qu'on découvre des choses toutes les semaines. Mmh. Quand on écoute France Musique, il y a les émissions consacrées aux sorties de disques, il y en a plein de musique baroque qui sort chaque semaine.
Et qu'est-ce qui qualifie la musique baroque ?
Alors, ce qui qualifie la musique baroque, c'est... alors, déjà, ce mot curiosité, c'est liberté, parce qu'en fait, quand on joue ces partitions-là, on a une marge de manœuvre énorme. Mais on revient au jazz un peu aussi, hein. C'est-à-dire que quand on prend une partition de musique baroque, on a plein de façons de la faire différentes. Et de l'interpréter. Liberté d'interprétation, je dirais. Et puis, après, au niveau de l'expression musicale, de l'énergie rythmique, il y a beaucoup d'énergie rythmique dans la musique baroque, même s'il n'y a pas de batterie, hein, il y a quand même le clavecin qui donne cette impulsion. Énergie rythmique, et puis, grosse inventivité. Voilà. Mmh.
Et les instruments, est-ce que pour jouer du baroque, il faut obligatoirement utiliser des instruments de l'époque baroque ?
Alors, on n'est pas obligé, on peut user, mais c'est des questions excellentes, hein, Rémi, bravo. Alors, on peut jouer la musique baroque, par exemple, sur un instrument moderne comme le piano, même si à l'époque de baroque, le piano n'existait pas encore. C'était le clavecin qui était employé. Alors, nous, on utilise les orchestres spécialisés à la musique baroque, on joue des instruments de l'époque, parce qu'on considère que cette musique-là, elle doit sonner comme elle sonnait à l'époque, avec les instruments de l'époque. Mais rien n'empêche qu'on puisse aussi jouer de la musique baroque avec le saxophone ou avec un synthétiseur, pourquoi pas. Mais quand même, nous, notre recherche, c'est de retrouver ce son de l'époque.
Et l'époque, c'est ?
C'est les 16e et 17e, enfin, oui, 17e et début du 18e siècle. 17e et 18e siècle, c'est l'époque de la basse continue, c'est la naissance de l'opéra avec Monteverdi, et c'est la mort de Jean-Sébastien Bach au milieu du 18e siècle. Tout ça, c'est un siècle et demi de musique.
Alors, on va écouter des extraits de musique pendant cette émission pour parler donc du Festival Passion Baroque, 9e édition, qui se déroule donc à Montauban, et au-delà des frontières montalbanaises, dans le Tarn-et-Garonne,
oui,
du 29 septembre jusqu'au 8 octobre. Donc ça démarre en fait par un concert à l'église Saint-Joseph de Montauban, Missa Assumpta Est Maria. On en écoute un extrait, puis vous me la présentez forcément.
C'est beau, n'est-ce pas, hein ?
Ah, c'est magnifique.
Et oui, c'est une messe de Marc-Antoine Charpentier. Vous le connaissez, c'est le Te Deum, l'œuvre la plus connue de Charpentier, ce fameux Te Deum dont on a extrait l'ouverture qui est l'Eurovision. Hein, c'est très connu, cet air.
Pam, 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 pam.
Bravo, ah. Voilà, mais ça c'est de Charpentier. Donc cette messe, Assumpta Est Maria, c'est une œuvre de la fin de sa vie, c'est considéré comme des grands chefs-d'œuvre de la musique baroque française, de la musique religieuse. Il était maître de chapelle à la Sainte-Chapelle à Paris, et à la fin de sa vie, donc, il a composé cette messe qui est un sommet. On va la donner donc avec le chœur Dulci Jubilo de Christopher Gibert, que je salue, qui sont en résidence à Montauban aussi avec nous, et on est très heureux de travailler ensemble. Et puis des solistes magnifiques. On a créé ce programme à l'abbaye de Sylvanès cet été, et on a eu un très très grand succès. Je suis très heureux de reprendre ce programme. En parallèle avec cette œuvre-là, donc, on va donner un motet de Campraor, qui était aussi un maître de chapelle à Paris, originaire d'Aix-en-Provence, et qui a été maître de chapelle à Toulouse aussi. Donc, Cantate Domine Campra. Premier concert, 29 septembre, ça commence très fort.
À l'église Saint-Joseph.
L'église Saint-Joseph,
elle a une
oui.
bonne acoustique. Comment elle est, cette église?
C'est pour ça que je l'ai choisie, parce que le sol est en bois, et ça donne une acoustique vraiment très, 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 très bien pour ce genre de programme. Et puis, bon, comme c'est de la musique religieuse, c'est quand même logique qu'on le donne dans une église. Donc, l'église Saint-Joseph, à côté de l'ancien collège à Montauban.
À 20h30, donc, le vendredi 29 septembre. Tiens, ça me fait penser de la place de la voix dans la musique baroque. Est-ce qu'il y en a tout le temps?
La voix, c'est la référence absolue pour les compositeurs de musique baroque et pour tous les instrumentistes. Le critère, c'était qu'il fallait imiter la voix. C'était vraiment très important. Alors même quand il n'y a pas de voix, on essaie de l'imiter. Après, la voix, elle est présente dans le répertoire religieux, évidemment, puisqu'on chante un texte religieux. Elle est présente aussi dans certaines formes, comme les cantates profanes, où on chantait des petites histoires avec la voix. Et puis dans l'opéra, évidemment, dans l'essence de l'opéra. La musique instrumentale, c'est plutôt pour danser. Donc les deux critères importants de musique baroque, le chant et la danse.
On est en train de parler avec Jean-Marc Andrieux, directeur de l'orchestre Les Passions et directeur artistique du festival Passion Baroque, de cette 9e édition qui se déroule à Montauban et dans le Tarn-et-Garonne, donc du 29 septembre au 8 octobre. Il y a beaucoup de concerts, on va en évoquer d'autres, mais il y a aussi une exposition à la Maison du Crieur.
Oui, effectivement, là aussi, depuis quelques années, on organise une exposition. Jusque-là, c'était le Théâtre du Capitole qui nous prêtait des costumes d'opéra. C'était vraiment magnifique. Bon, on a décidé un petit peu de changer un petit peu de présentation. Cette fois-ci, on aura des costumes présentés par Mademoiselle Constance qui a un atelier de confection de costumes, et on verra aussi de nos costumes. Et on va aussi exposer des instruments anciens qui appartiennent au Conservatoire de Toulouse. Il faut savoir que le Conservatoire de Toulouse, c'est un des plus vieux de France. Il date de 1820. C'était une succursale du Conservatoire de Paris, créée au début du 19e siècle. Et ils ont accumulé depuis des instruments et le Conservatoire de Toulouse a une des plus belles collections d'instruments anciens. Donc il va y avoir un serpent, un basson russe, un luth, des flûtes anciennes, clarinettes anciennes, un violon baroque aussi de l'époque. On va avoir une super collection que d'ailleurs je remercie chaleureusement le Conservatoire de Toulouse de nous avoir prêté cette belle collection.
Donc ça, c'est à la Maison du Crieur du 7 au 28 octobre, ça prolongera un petit peu le festival. Samedi 30 septembre, quatuor éphémère à l'église de Gibignargues à Puy-Cornet.
Alors ça, c'est la tournée dans le département, ça va être très sympa, c'est un quatuor de jeunes chanteurs qui sont issus du chœur de Christopher Gibert, Christopher qui chante lui-même dans ce quatuor. Je les ai entendus, c'est vraiment délicieux, on va se régaler, et on leur a proposé donc deux dates, le 30 septembre à l'église de Gibignargues, c'est à Puy-Cornet, sur la commune de Puy-Cornet. Et puis le 1er octobre, on va les entendre au château de la Motte, à Bardigues, c'est vers Auvillard. Un château extraordinaire, je ne sais pas si vous le connaissez. Ça vaut vraiment le coup de venir voir ce château qui est un peu comme il était à l'époque baroque, quoi. C'est extraordinaire, avec des propriétaires très, 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 très accueillants, très sympathiques, que je remercie encore une fois. Le dimanche 1er octobre à 11h, on sera avec eux, avec une petite dégustation de producteurs de vins locaux à l'issue du concert du quatuor éphémère avec Camille Suffran, Lucie Lorenz, Malo Évrard et Christopher Gibert. C'est pas que de la musique baroque qui va chanter des œuvres du Moyen-Âge à nos jours. On va passer un super moment.
Le même jour, il y aura les variations Goldberg à l'abbaye de Belle-Perche. On en parle peu parce que c'est...
Et voilà, c'est archi complet. Il y a une liste d'attente de 12 000 personnes. Enfin, c'est un succès énorme. Variation Goldberg par Céline Frisch. D'ailleurs, les autres concerts aussi commencent à se remplir. Il serait prudent de réserver.
Et donc, on réserve en passant par le site internet.
Le site internet, les-passions.fr.
Qu'est-ce qu'on écoute maintenant ?
Alors maintenant, je propose d'entendre un extrait du concert qui sera donné au Théâtre Olympe de Gouges le 6 octobre. C'est nos amis de Lyon. Donc c'est Franck Emmanuel Comte qui dirige son ensemble, le Concert de l'Hostel-Dieu. C'est un super ensemble de musique baroque qui est basé à Lyon et qui ont monté ce programme qui s'appelle Dolce Folia avec la soprano Heather Newhouse. Et on va entendre des œuvres italiennes de l'époque baroque, dont cette fameuse tarantelle que j'adore, qui est vraiment représentative de cette musique débridée du sud de l'Italie à l'époque baroque. Donc tarantelle par nos amis du concert de l'Hostel-Dieu. Thank you.
C'est étonnant, on parlait de jazz en début d'émission. Toute l'interprétation du début, c'est... Alors, est-ce que c'est parce que c'est une interprétation actuelle ou est-ce que c'est vraiment comme ça?
Non, à l'époque, on ne sait pas trop, mais là, ils ont un petit peu actualisé. Hein. C'est, d'ailleurs, ce concert-là, ce sera un petit aller-retour entre, justement, cette musique baroque avec ces sources-là écrites et puis la pratique de l'improvisation, comme ils ont fait au début de ce morceau-là. Voilà, ouais.
Qu'est-ce qu'il raconte, ce morceau ?
Cicinerella, c'est une gamine de Naples un peu coquine. Je ne vais pas lire la traduction, mais elle fait un peu les sans-coups, quoi. Je ne sais pas si à un moment, elle ne montre pas ses fesses même.
Voilà, ça c'est donc au Théâtre Olympe de Gouges à 20h30. Ce sera le vendredi 6 octobre. Il y a un avant-scène.
Oui, l'avant-scène, on a mis ça au point il y a quelques temps déjà. Ça plaît beaucoup parce que les publics étaient invités à discuter avec le chef, quoi, avec Franck-Emmanuel Comte. J'y serai, on va discuter un petit peu. En fait, ça permet au public de se préparer au concert, après d'avoir des clés pour mieux écouter le concert qui suivra. Donc l'avant-scène, c'est à quelle heure ? À 18h30, vous êtes invités à venir à cette avant-scène. Et puis après, vous pouvez aller... croquer un petit morceau en ville avant le concert. Quoi.
Oui, ou même sur place, parce que je crois qu'il y a eu l'ouverture du bistrot du théâtre.
Absolument, oui. C'est une bonne formule, ça.
On peut rester sur place. Samedi 7 octobre, de 10h à midi et de 16h à 17h30, un concert au Musée Ingres.
Alors là aussi, on ne va pas trop en parler parce que c'est complet. C'est complet, c'est un concept qu'on a inauguré l'année dernière, One to One, ça s'appelle. C'est un musicien avec un seul auditeur. Il rentre, des fans de parler, il se regarde une minute et puis le musicien, il va lui jouer un morceau à la tête du client. Comme on dit.
C'est privilégié.
Mais là, tout le monde s'est déjà inscrit, ça a été pris d'assaut. Ça m'incite à vous conseiller de réserver pour les concerts qui restent.
Et bah, du coup, alors on parle du dernier concert, celui du dimanche. Non, alors on reste sur le samedi 7 octobre.
Le 7 octobre encore, au Théâtre Olympe de Gouges encore, oui.
Avec ceci...
On entend là un concerto pour luth de Vivaldi. Vivaldi, c'est une des grandes stars du baroque, un des compositeurs les plus connus. Ben, je crois que les quatre saisons, c'est connu par tout le monde, mais il a écrit beaucoup, beaucoup d'autres concertos comme celui-ci pour luth qui est moins connu. Et star, donc Vivaldi, mais autre star, c'est Thomas Dunford, le luthiste, qui a créé cet ensemble Jupiter qui est considéré actuellement comme un des meilleurs ensembles baroques, non seulement en France, mais au monde. Et c'est vraiment une chance incroyable de les avoir à Montauban le 7 octobre prochain.
Et puis le festival se clôturera le dimanche 8 octobre avec Double Download.
John Dowland, c'était un compositeur anglais qui jouait du luth aussi d'ailleurs et qui a écrit des mélodies extraordinaires. D'ailleurs, Sting a fait un disque avec des comment ça s'appelle sur l'hiver, la Winter. Magnifique album de Sting. Il reprend des mélodies de Dowland. Ce fameux Dowland, il va être chanté par Anne Maguette, qui est une merveilleuse soprano qui chante souvent avec nous, et Bruno Elstrofer qui va l'accompagner au luth, et David Chevalier qui est un jazzman, un des grands jazzman français guitariste, qui a fait des arrangements de ces airs de Dowland. On va avoir des allers-retours entre l'original et l'arrangement jazz de David Chevalier. Ça se passe là aussi à un endroit emblématique de Tarn-et-Garonne, l'abbaye de Beaulieu en Rouergue, qui a été restaurée récemment. Dimanche 8 octobre à 15h, là, un moment exceptionnel à ne pas manquer aussi.
Voilà, Passion Baroque, 9e édition du 29 septembre au 8 octobre, avec comme thématique variation et improvisation. Merci beaucoup Jean-Marc Andrieux d'être venu nous en parler. Vous revenez prochainement, je vous réinvite pour parler de la sortie de cet album, de ce double album, l'opéra occitan Daphnis et Alcimaldur de Mondonville.
Et merci, oui, je reviendrai avec grand plaisir, on en reparlera, parce que cet opéra, on l'avait créé l'année dernière au Festival Passion Baroque 2022. Donc merci beaucoup pour votre accueil Rémi, et rendez-vous à Passion Baroque à Montauban.
Merci bien.
Vos podcasts et replays, podcasts et replays, cfmradio.fr.